Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet, son journal de l'écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Des discussions difficiles entre l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie sur l'avenir des livraisons de gaz russe. Les négociations de ce week-end ont tourné court et l'Union européenne court un risque pour son approvisionnement.
En tout cas, le vice-président de la commission de l'Union européenne chargée de l'énergie, Maros Sefcovic, ne cachait pas sa déception hier, puisqu'aucun accord n'a été trouvé entre Naftogaz, l'ukrainien, et Gazprom, le russe, sur le renouvellement de ce contrat de livraison de gaz russe via l'Ukraine. Pour les 10 prochaines années. Ce transit par l'Ukraine est stratégique pour l'Union européenne. C'est la moitié des 170 milliards de mètres cubes envoyés de Russie, également de grandes capacités de stockage. C'est aussi vital pour Kiev, qui reçoit en contrepartie 3 milliards de dollars par an. L'actuel contrat arrive à échéance, mais la donne a changé depuis 10 ans. Outre la géopolitique, bien sûr, Moscou va mettre en service 3 nouveaux gazoducs d'ici 2020-2021, un dans la Baltique et deux en mer Noire. Depuis un an, l'Union européenne demande à la Russie un volume important de transit en Ukraine, 60 milliards de mètres cubes par an, voire 90 milliards occasionnellement. Beaucoup trop en tout cas pour Moscou, explique Marc-Antoine Eil-Mazega, il est directeur du Centre Énergie et Climat de l'IFRI.
L'idée, c'est qu'actuellement, l'Ukraine assure le transport d'à peu près 85 milliards de mètres cubes de gaz russe par an vers les marchés européens, soit un petit peu moins de la moitié du total des exportations russes vers l'Europe. La Commission européenne considère que l'Ukraine doit être conservée comme route d'approvisionnement pour le gaz russe. Et en effet, elle a proposé à la Russie, avec l'accord de la partie ukrainienne, eh bien, un contrat qui irait en réalité baisser les volumes d'à peu près 30% par rapport à l'état actuel. Mais l'Ukraine resterait une voie absolument majeure d'approvisionnement de l'Europe. Mais les Russes ne l'entendent pas de cette façon. Eux considèrent qu'ils ont construit et investi massivement dans des tubes pour justement éviter l'Ukraine et pour approvisionner directement leurs deux grands marchés, l'Allemagne, qui est le premier marché pour le gaz russe en Europe, et puis plus au sud, et la Turquie et l'Italie, à travers ce gazoduc Turk Stream. Et donc, pour les Russes, il est hors de question de maintenir de tels volumes par l'Ukraine, et le problème des Russes, c'est qu'en réalité, ils ne savent pas quand va être mis en service le Nord Stream 2, et donc ils jouent la montre.
Voilà, les négociations doivent reprendre en novembre, mais si elles échouent encore, la Russie pourrait couper ses livraisons à l'Ukraine, Xavier.
En tout cas, c'est ce qui était arrivé de nombreuses fois entre 2006 et 2015. Couper les vannes est un moyen de pression plus sur l'Ukraine que sur l'Union européenne, puisque 36% du gaz consommé en Union européenne est russe. En attendant, Gazprom tente de proposer ou bien un renouvellement du contrat sur un an, ou bien un contrat global où l'Ukraine s'engage à consommer un certain volume, mais ça, l'Union européenne n'en veut pas.
On passe au bref. Russie et Union européenne toujours. Vladimir Poutine est à Budapest pour renforcer la coopération économique.
Oui, au programme, les discussions sur l'extension de l'unique centrale nucléaire hongroise d'ici 2025 avec un prêt de 10 milliards de dollars de Moscou ou un projet conjoint d'équipement ferroviaire à vendre à l'Égypte, mais aussi des discussions sur le gaz car la Hongrie dépend plus que quiconque en Union européenne du gaz russe. 80% de ses approvisionnements. Selon Russia Today, Budapest souhaite augmenter ses stocks de gaz russe avant la fin de l'accord de transit avec l'Ukraine à la fin de l'année pourrait vouloir se raccorder au Turkish Stream en finalisation dans la mer Noire.
Et on en parlait hier, les premiers chiffres pour évaluer la santé de l'économie américaine en cette fin d'année.
1,9% de croissance du PIB au troisième trimestre, c'est bien mieux que les 1,5% annoncés par les analystes. Un premier indicateur qui devrait rassurer les marchés. À suivre donc ces chiffres tout à l'heure à 18h avec le taux conducteur de la Fed.
Et on en reparlera dans notre débat d'actualité économique ce vendredi. Et enfin, la grosse affaire industrielle en France depuis ce matin, c'est celle-ci, cette possible fusion entre PSA et Fiat Chrysler pour créer le quatrième groupe automobile mondial.
Et l'AFP nous annonce que l'annonce pourrait même avoir lieu demain. Un groupe de 10 marques capable de vendre 8,7 millions de véhicules par an et qui pèserait 45 milliards d'euros à la bourse. C'est effectivement ce que projettent les dirigeants de PSA et Fiat Chrysler. Le premier constructeur trouverait une taille critique comparable à Toyota ou Renault-Nissan. Et Fiat Chrysler cherche apparemment des synergies technologiques. Les actions en tout cas bondissent et c'est une résurrection pour PSA qui risquait la faillite en 2012 et un retournement quand même pour Fiat Chrysler, déçu d'une précédente tentative cette année, un rapprochement avec Renault-Nissan.
Merci beaucoup Xavier Martinet et j'indique que votre journal de l'écho est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.